Il est 7h46, le débat éco du vendredi, des arguments de fer sur un ton de velours. Thomas Piketty, Dominique Seux, bonjour.
Bonjour Nicolas Demorand, je crois qu'on a compris le message.
Oui. Je vais le marteler encore. Cette semaine, nous nous arrêtons sur la situation économique de la France en cette rentrée. L'INSEE a publié ses prévisions trimestrielles, elles sont bonnes. Et le gouvernement, cette nuit, a dévoilé ses perspectives de croissance. Ce sera 6% cette année, 4% l'an prochain. Le ciel semble donc dégagé, mais l'est-il vraiment et pour combien de temps? Voilà le tableau d'ensemble et pour commencer, vous allez nous dire chacun quelle est votre image météo-éco-globale de la situation. Dominique Seux.
C'est un ciel globalement bleu, il n'y a pas de doute là-dessus. La question c'est de savoir si derrière l'horizon, au-delà de l'horizon, on y voit très clair. Ce qui est bon, 6%, 4%, évidemment sont des bons chiffres. Il faut naturellement rappeler qu'on était tombé de -8 en 2020. L'image qui vient à l'esprit, alors il y a l'image météo, mais je crois que c'est, vous connaissez le tableau de Magritte, ceci n'est pas une pipe, ceci n'était pas une crise économique. Ceci n'était pas une crise économique, l'économie est repartie, c'était une crise sanitaire, l'économie a été mise sur arrêt pour des raisons politiques tout à fait légitimes naturellement. Le capital humain a été préservé, alors c'est une expression d'économiste, le capital humain globalement, grâce au chômage partiel. Le capital industriel a été dans l'ensemble préservé, le capital financier a été préservé, donc l'économie peut repartir. Pourquoi? Quels sont les moteurs aujourd'hui? Vous avez bien sûr un moral qui est bon, l'espoir de la fin de la crise sanitaire, voilà. Alors on espère évidemment. Il y a le vaccin qui a rendu ça possible. Il y a de l'argent disponible et il y a la politique de relance. Donc au total, c'est vrai qu'il y a un cocktail plutôt positif. La question, mais on y reviendra
on
plus tard,
venir, ouais.
C'est de savoir si derrière l'économie française ne retrouve pas les difficultés qu'elle avait déjà en 2019.
Le ciel est bleu, disait Dominique Seux à l'instant. Thomas Piketty, vous le voyez de la même couleur?
Oui, non, moi je serais quand même un peu moins euphorique que Dominique, c'est-à-dire que le plus grave à mon avis c'est sur le front de l'emploi, du chômage. Je vais y revenir, je vais quand même commencer par les chiffres de la croissance que décrivait Dominique. Je veux aussi dire que sur le front du capital humain, de l'éducation, il y a une dette éducative considérable. On ressort de un an et demi où les enfants, les élèves, les étudiants n'ont pas du tout pu apprendre comme ils auraient fallu. Et c'est sans doute le gâchis le plus considérable qui n'est pas du tout pris en compte dans les statistiques du PIB, de même que l'environnement. Enfin bon, il y a beaucoup de choses. Mais pour en rester quand même à ces statistiques du PIB, puisque c'est de ça dont on parle. On dit là, regardez, le PIB va croître de 6% en France en 2020. Sauf que, comme vous l'avez rappelé, Dominique, on a baissé de 8% en 2019. Donc, excusez-moi. Enfin, 6% en 2021, sauf qu'on a baissé de 8% en 2020. Et de façon générale, ce qui est assez frappant, en fait, si on regarde, c'est assez représentatif de la situation en Europe. Ce qui est assez quand même frappant quand on compare avec les États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, la baisse en 2020 a été moins importante. C'est-à-dire qu'on a, baissé de 4% aux États-Unis en 2020. Et là, on remonte de 7% aux États-Unis en 2021. C'est-à-dire, si on fait la comparaison Europe-États-Unis, malheureusement, c'est vraiment pas terrible pour la France.
Donc, c'est,
et pour l'Europe
en
général.
Reprise un peu terne, molle.
Je dis juste, alors après, je dis pas ça pour être désagréable avec le gouvernement français ou avec le gouvernement européen. Je dis juste, si on regarde les dernières prévisions du FMI, qui d'ailleurs sont tout à fait conformes à celles de la France pour la France, mais si on regarde la situation par rapport aux États-Unis, alors que s'est-il passé? Parce que c'est vrai que c'est pas complètement évident, c'est assez paradoxal, parce qu'en même temps, on n'arrête pas de dire en France, en Europe, on a des amortisseurs sociaux tellement plus puissants qu'aux États-Unis. Donc, comment se fait-il que les États-Unis, déjà dès 2021, aient redépassé leur niveau d'activité d'avant la crise, alors que nous, il va falloir attendre 2022, et ça a des conséquences concrètes, on en reparlera tout à l'heure, sur le chômage, l'emploi.
Ça peut être dès la fin
Dominique
de cette année, hein, ça peut être dès la fin de cette année, le fait que l'économie repasse le niveau de fin 2019, sachant qu'il faut toujours rappeler que il y a quand même des années perdues, c'est-à-dire il y a des années de croissance, une année et demie de croissance qui est perdue. Quand on rattrape le niveau de fin 2019, en fait, on aurait dû être plus haut. Mais quand même...
Mais alors pourquoi moins bien que les États-Unis,
Pourquoi moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder quelle est la situation, j'allais dire, des gens. Le pouvoir d'achat a augmenté en 2020 et il va augmenter en 2021. Ça veut dire que nos amortisseurs sociaux, c'est formidable, je défends largement les amortisseurs sociaux que nous avons, je trouve qu'ils ont plutôt bien fonctionné.
Oui, mais on n'a pas assez relancé. Moi, c'est à ça que je voulais en venir quand même. C'est-à-dire que
ils ont fonctionné différemment de la crise de 2008-2010. Voilà.
On n'a pas assez relancé. Pourquoi dites-vous ça? On a l'impression qu'on l'a fait massivement. progressivement.
Oui,
hein.
Mais à nouveau, il va falloir quand même que les dirigeants français et européens arrêtent de simplement nous dire on a tout fait mieux que les autres. Et pourquoi, par rapport aux États-Unis, de la même façon d'ailleurs qu'après la crise de 2008, on est beaucoup plus poussif dans la relance. Moi, ma partie de l'explication, mais je pense qu'il faut être très modeste parce qu'on ne sait pas très bien, là, par rapport à la situation actuelle, tout analyser. Mais c'est quand même que l'Europe a toujours du mal et n'a toujours pas changé ses règles budgétaires et a du mal à se projeter dans l'avenir avec la même vigueur qu'aux États-Unis. Et c'est pas simplement du quantitatif, c'est aussi du qualitatif. C'est-à-dire que aux États-Unis, il y a un plan d'investissement dans ce qui était certaines faiblesses états-uniennes sur l'enseignement, la petite enfance, etc. Nous, on a d'autres faiblesses dans l'enseignement supérieur, mais dans plein d'autres endroits. On a juste moins investi, moins relancé qu'outre-Atlantique, et on s'est pas préparé pour la suite.
C'est formidable.
Dominique, et puis avançons. Oui,
c'est formidable que Thomas défende le capitalisme américain, qui est évidemment infiniment plus brutal, qui est infiniment plus flexible, qui est infiniment plus innovant, qui est infiniment plus innovant.
Du capitalisme états-unien en général, Dominique, on parle de la sortie de crise.
C'est aussi l'innovation américaine qui permet qu'ils rebondissent plus fort, c'est qu'ils ont une démographie beaucoup plus dynamique.
Là, ils n'ont pas eu plus de 5% de population en un an. Là, si vous voulez, le décalage de croissance, c'est pas la démographie, Dominique. Là, non, vous pouvez tout reprendre les chiffres.
Les personnes ont été plus protégées ici.
Revenons, messieurs, on a bien entendu donc que cette embellie, il fallait l'entourer d'un certain nombre de précisions. Ouais. Vous les avez formulées. Est-elle à mettre au crédit de l'exécutif? Pouvez-vous, devez-vous, Thomas Piketty, dire bravo à Emmanuel Macron?
Merci Macron, comment dire? Oui, mais non, écoutez, franchement.
Non, mais si vous avez envie de le dire, vous pouvez y aller.
Non, mais moi, j'ai pas de problème. C'est un peu la suite de ce que je disais avant. C'est-à-dire que, compte tenu de la comparaison entre les économies françaises et européennes et ce qu'on peut voir dans les autres économies avancées, en particulier de l'autre côté de l'Atlantique, c'est quand même difficile, je trouve, de se gargariser. Surtout, et je voudrais maintenant vraiment insister sur la situation sur le front de l'emploi. C'est-à-dire, si on regarde, vous savez, il y a toujours deux façons de mesurer le chômage. Il y a le taux de chômage en sens du Bureau international du travail, qui, là, il suffit que vous ayez travaillé une heure la semaine dernière, vous êtes plus chômeur au sens du Bureau international du travail. Là, on est dans une situation, disons, un peu d'attente, c'est-à-dire que le taux de chômage, il faut rappeler qu'il était de 7% avant la crise de 2008, il avait monté énormément jusqu'à 10% en 2014-2015, depuis il diminuait régulièrement, il était retombé à peu près à 7% à la veille là, de la pandémie, et remonté à 9, là on est redescendu à 8, il se stabilise. Bon, ça a interrompu la baisse, on n'est toujours pas reparti dans la baisse qui avait commencé en 2014-2015. Mais surtout, si on prend tous les inscrits à Pôle emploi, là, on n'a jamais été aussi élevé. C'est-à-dire que si on prend juste les catégories A, on est à 3,5 millions d'inscrits à Pôle emploi. Si on prend tous les inscrits de catégorie A, B, C, c'est-à-dire y compris les gens qui ont travaillé moins de 78 heures le mois dernier, qui voudraient travailler plus, on est à 5,5 millions d'inscrits à Pôle emploi. On n'a jamais vu ça depuis 20 ans. Alors, c'est une tendance qui existait déjà depuis le début du mandat, enfin depuis en fait de très longtemps, mais simplement, on peut pas, dans une situation comme ça, être euphorique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une action de relance. Je pense notamment sur toutes les actions en faveur de la rénovation de bâtiments, de relance de façon générale des bas salaires pour aussi rendre les emplois plus attractifs, plus durables. On en parlait la semaine dernière. Voilà, la situation est loin d'être rose.
Dominique Seux, l'embellie, à qui?
Le gouvernement a plutôt bien fait les choses. Il faut le dire d'autant plus qu'il a avalé son chapeau quand même sur la quasi-totalité des dossiers. Il avalie son chapeau sur la réduction des déficits, il a laissé tout partir et c'était légitime pendant cette période-là. Il a avalé ses chapeaux en suspendant la réforme de l'assurance chômage qu'il avait lancée, il a suspendu la réforme des retraites qu'il avait lancée, donc il a avalé son chapeau. Donc c'est difficile de ne pas dire que il a soutenu la demande des ménages, il a soutenu la trésorerie des entreprises. Et au total, les entreprises aujourd'hui sont en train, parce qu'il faut quand même parler des entreprises, ce que font les entreprises aujourd'hui, c'est qu'elles sont en train de reconstituer leur stock. Et donc, on a une économie qui est dynamique ça va durer encore quelques temps, même si on a peut-être cet été atteint le pic. Alors, évidemment, la grande question, c'est de savoir derrière ce qui se passe. C'est-à-dire, ce qui peut se passer,
quels sont les risques potentiels?
Il y a deux grandes questions qui étaient, est-ce que l'économie était très innovante et compétitive avant la crise du Covid, et c'est vrai qu'on retrouve les mêmes difficultés, que ce soit la question du système éducatif, que ce soit la question de l'innovation, on l'a bien vu évidemment sur les vaccins, et l'essentiel, c'est il y aura forcément à un moment ou à un autre, ce qu'on peut dire entre guillemets, une purge. C'est-à-dire, il n'est pas possible que cette politique monétaire totalement expansive, ces dettes qui ont exploser, il n'y ait aucun effet à aucun moment. Alors, est-ce que ça va être dans 5 jours, dans 5 mois, dans 5 ans? Je n'en sais strictement rien. Mais on n'a jamais été aussi près de la prochaine crise financière. C'est ce qu'on appelle un truisme, mais ce n'est pas complètement faux.
Thomas Piketty.
Oui, alors, moi, votre annonce de purge, ça ne me rassure pas beaucoup. Non, je ne pense pas du tout qu'il faut voir les choses comme ça. Je pense qu'il faut surtout éviter de retomber dans l'orthodoxie budgétaire aussi vite qu'on l'avait fait, que l'Europe l'avait fait après la crise de 2009. Enfin, il faut rappeler à nouveau, la crise de 2009, elle venait des États-Unis, sauf qu'en Europe, en 2011, 2012, 2013, on a recréé une récession à cause de qu'on a voulu réduire trop, trop vite les
je
déficits.
Pas, je ne dis pas qu'il faut faire une purge de finances publiques, je ne sais pas quoi. Je dis, à un moment ou à un autre, il y a un château de cartes.
Vous dites qu'on a pris trop de dettes, la Banque Centrale a pris trop de dettes.
Ouais. Je dis, ça ne va pas forcer. Ce château de cartes ne va pas tenir éternellement comme ça.
Thomas Piketty.
Moi, je pense que là, vraiment, avec des taux d'intérêt à zéro, la priorité, c'est pas de retomber dans l'orthodoxie budgétaire. Il faut, au contraire, je pense vraiment que là, on devrait beaucoup plus investir, notamment dans le climat, mais aussi dans l'éducation.
Justement, on s'est réjoui dans ce débat éco à l'instant que la croissance soit forte, qu'elle reprenne 6% cette année, plus 4% l'an prochain. Les candidats à la primaire écologiste débattent en ce moment de la décroissance, du changement de modèle économique nécessaire pour faire face à la catastrophe climatique. À cette aune-là, faut-il se réjouir du rebond de la croissance française ? Dominique, pour commencer.
Oui, non mais moi je me réjouis du rebond de la croissance française qui a une seule condition, c'est que ce rebond, ces investissements permettent la décarbonation de l'économie. Ce qui m'intéresse, c'est pas la décroissance, c'est la décarbonation. C'est la priorité absolue. Si dans ces 6% et ces 4%, et imaginons qu'il y ait 2% qui permettent la décarbonation, c'est évidemment nécessaire. Heureusement, il y a depuis des années une décarbonation de l'industrie, mais il n'y a pas de décarbonation des transports. Si ces investissements, si les capacités des entreprises, prenons le secteur de l'automobile, permettent d'avoir des automobiles plus propres climatiquement, eh bien évidemment, c'est de la croissance du secteur, mais évidemment, il faut que ce soit,
le cas. La croissance peut être une mauvaise nouvelle.
Oui, bien sûr. Tout dépend de la croissance de quoi. Et là, on sait très bien qu'on n'est pas du tout dans les clous par rapport aux annonces des réductions d'émissions pour 2030. Et de façon générale, ce qui manque au débat public, c'est d'avoir des indicateurs environnementaux et des indicateurs d'émissions carbone qui soient donnés au même rythme et avec la même importance que les indicateurs de PIB. C'est-à-dire que si on avait un rythme annuel ou pourquoi pas trimestriel des indicateurs d'émissions carbone, le débat serait différent. Alors vous me direz, on a du mal à les calculer. Sauf que le PIB, on a aussi beaucoup de mal à le calculer. Ça n'empêche pas de sortir n'importe quel chiffre, de les réviser ensuite. Alors, l'idéal, ce serait qu'on ait un peu plus de recul, qu'on attende toujours d'avoir un peu plus de recul sur les chiffres. Mais vous voyez comment ça marche, le débat. On a besoin, là, les élections arrivent. Les gens veulent des chiffres. Bon, il faudrait qu'il y ait des indicateurs. Il faudrait que le gouvernement, l'INSEE, sorte des indicateurs. Oui, sauf que là, ce serait pas très bon. Parce que par rapport aux cibles officielles des accords de Paris que la France a pris, par rapport à 2030, là, vraiment, tous les rapports l'ont bien montré depuis un an. On n'est pas du tout.
Il faudrait que le Conseil pour le climat ait plus de moyens pour donner des indications trimestrielles, alors soit sur les émissions, soit sur les efforts qui sont faits.
Ils l'ont fait un peu et ils ont vu qu'on n'était pas du tout dans les clous. Hein.
Allez, une question très rapide pour terminer. Question courte, réponse courte. Le pass sanitaire peut-il entraver la reprise ? Thomas Piketty.
Écoutez, si ça permet d'éviter le reconfinement, évidemment, c'est plutôt mieux que rien. Maintenant, moi, je trouve que la façon dont on demande à des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de restaurateurs, de personnes entrées dans les salles de cinéma, de contrôler tout le monde, je suis pas sûr quand même que ce soit la meilleure façon, la seule façon. Il y a un débat qui existe, qui continuera sur la vaccination obligatoire. Je pense aussi, bon, voilà, tout ça, l'acceptation, tout ça serait beaucoup plus facile si on avait levé les droits sur les vaccins, si on régulait beaucoup mieux les profits des entreprises pharmaceutiques. Donc on s'est mis dans une situation compliquée et on demande à beaucoup de gens de contrôler le reste de la population.
Dominique,
d'une façon quand même un peu pénible.
Vous aurez le mot de la fin.
Je vois pas le rapport entre la levée des brevets et l'acceptation du pass sanitaire en France.
Dans le vaccin en général.
Le pass sanitaire a été un succès pour l'objectif caché qu'il avait, c'est d'inciter et de forcer à la vaccination. Jusqu'à maintenant, ça a réussi et il faut s'en réjouir.
Ça aussi, dans le cinéma, on a des places en chute, on a des secteurs quand même qui souffrent beaucoup.
C'est fini, messieurs. Merci beaucoup. Vous entendez les tops sur France Inter. Merci Dominique Seux. Merci Thomas Piketty. Il est 8h.
France Inter.